La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Socrate, ou comment l'homme, en sortant de sa caverne, a découvert la vraie vie. Par Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie. D'une année de terminale, on retient surtout celui par qui tout semble avoir commencé, y compris le tout premier cours qu'on aura reçu. Socrate. Il faut dire qu'il semble avoir soigné son plan marketing auprès des apprentis philosophes. Il impose peu de lectures, on retient d'ailleurs surtout le fait qu'il n'a rien écrit, maudissant presque Platon d'avoir été à son maître ce que Judas fut à Jésus, un traître, mais aussi un révélateur. On voit en lui un professeur qui ne donnait pas de leçons, un malin génial ridiculisant ceux qui font autorité, préférant faire surgir la vérité à partir des paroles de ceux qui étaient censés ne pas pouvoir la posséder. Séducteur, bon vivant, furetant dans les rues, invité aux soirées de la bourgeoisie de son temps, il est devenu une figure dont, paradoxalement, on garde surtout des images, alors même qu'on croit aussi se souvenir qu'il est celui qui introduisit cette idée que, justement, il faut se méfier des images.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Observer Socrate à l'œuvre, c'est une manière de respecter le conseil que Kant donnait dans l'annonce de ses cours pour le semestre d'hiver de l'année 1765. L'étudiant qui sort de l'enseignement scolaire était habitué à apprendre. Il pense maintenant qu'il va apprendre la philosophie, ce qui est impossible, car il doit apprendre à philosopher. Il n'y a pas de philosophie dans l'apprentissage de pensées déjà abouties. En revanche, voir quelqu'un penser et le voir surtout susciter la pensée chez les autres, c'est avoir une chance de pouvoir, à son tour, participer au dialogue. On découvrira alors que Socrate est avant tout un homme prodigieusement présent à travers les textes dont il est le personnage principal, mais prodigieusement ailleurs aussi. Tout d'abord parce que cette histoire finit mal, il fut condamné à boire de la ciguë. Mais aussi parce que ce qu'il visait, c'est une pensée qui se tiendrait au-delà des individus qui la prononcent. Un homme d'image. Socrate, ce sont avant tout des images. Images d'un homme qu'on voit déambuler dans les rues d'Athènes, s'arrêtant pour dialoguer avec tel ou tel, sans distinction de genre ou de classe, un esclave étant à ses yeux tout autant digne d'intérêt qu'un juriste. Images de la pensée aussi, tant celle-ci s'incarne à travers des mises en scène si célèbres qu'on les considère comme mythiques, au premier rang desquelles trône une caverne que visitent encore pêle-mêle bachelier en devenir, étudiant, professeur, écrivain ou réalisateur.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Mais la première des images, si on veut comprendre ce qu'apporte Socrate, c'est celle qu'on se fait du monde lui-même. En effet, la pensée de Socrate commence avec l'expérience, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la vie, le quotidien tel qu'on le parcourt sans même y prendre garde. Avec Socrate, on parle de philosophie lorsqu'on commence à prendre garde à ce qui relève habituellement de l'évidence, quand on prend ses distances avec cette présence si coutumière de ce monde qu'on appellera dès lors le monde sensible. 24 siècles plus tard, Michel Foucault reprendra cette idée en des termes nouveaux, lorsqu'il dira que la philosophie a pour tâche de rendre visible ce qui est précisément visible, de faire voir ce que nous voyons.
Bravo! Vous êtes sur Sirius Audio.
L'image passage. Beaucoup considèrent cette étape nécessaire comme un obstacle infranchissable. Il ne faut pourtant pas se laisser impressionner. Les séries et les films nous ont amplement familiarisés avec cette expérience de pensée qui va au-delà de l'expérience des sens. Tous ceux qui ont vu Matrix en particulier ont très simplement perçu cette distance qui peut s'insérer entre le monde réel et l'image qu'on en a. Si l'habitude exige qu'on identifie ces deux éléments, on peut aussi tenter de les séparer. Et c'est ainsi que naît chez Socrate la philosophie au tout début du livre 7 de la République, telle que la rédige Platon. Un prisonnier qu'on avait tenu depuis sa naissance, enfermé dans une caverne, réalise soudainement qu'il ne voyait que l'apparence des choses, leur forme sensible, leur ombre en somme, et se met en chemin vers leur source afin d'accéder à une connaissance plus vraie. Chaque interlocuteur de Socrate aura l'occasion d'initier ce périple de pensée en constatant que son discours s'appuie davantage sur l'image qu'il a des choses que sur les choses elles-mêmes. C'est là toute la différence entre l'opinion, ce que la Grèce antique nommait doxa, et la vérité. L'une n'est qu'un jugement fondé sur les apparences et les habitudes, quand l'autre tente de cerner au plus près la nature de ce dont elle parle.
L'éléphant est Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Aux ignorants, les âmes pleines. On serait tenté ici de supposer que Socrate ait pour projet simple de remplacer les opinions approximatives des autres par sa propre science. C'est ainsi qu'on se représente le sage, un être qui disposerait d'un savoir absolu et d'une parfaite maîtrise de soi. Pourtant, ici aussi, on se laisse avoir par les images, en particulier celles du sage. Star Wars illustre notre méprise. On nous y présente un Yoda qui emprunte à Socrate son manque d'apprêtement physique, son autorité sur ses interlocuteurs et sa tendance à rejeter les verbes à la fin des phrases comme on le fait en grec ancien. Et on est fin prêt à prendre cette panoplie pour la plus haute des sagesses. Or, Socrate n'aurait pas apprécié Yoda, pour la simple raison que celui-ci n'est qu'un donneur de leçons de plus, qu'on doit croire sur parole puisqu'il ne se donne jamais la peine de justifier son propos. Le problème de Yoda, c'est qu'il sait, mais qu'il ne donne pas la source de son propre savoir, qui se présente comme un ensemble de propos dogmatiques. C'est là une attitude vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la connaissance qui est diamétralement opposée à celle que Socrate adopte. Si on comprend cela, alors on saisit pourquoi Socrate fut condamné à mort par la cité d'Athènes. Ne se contentant pas d'être une voix parmi les autres, il entreprend de mettre à plat tous les discours et de renvoyer dos à dos tous les experts de son temps, y compris ceux qui se positionnent sur le marché de la parole comme experts en sagesse. Il est temps ici de s'intéresser à un détail lexical.
Êtes-vous vraiment sérieux ? Ok, bienvenue sur Sirius Audio.
Pourquoi la philosophie porte-t-elle ce nom ? Celui-ci signifie « amour de la sagesse ». Mais on peut s'étonner de voir cette discipline rangée du côté de la philatélie ou de la colombophilie, qui ne prétendent pas être intégrées aux enseignements universitaires. Les philosophes ne seraient-ils que des amateurs ? Si cette discipline voulait prétendre au statut de science, elle devrait être non pas l'amour de la sagesse, mais la connaissance de celle-ci. Et de la même manière que la connaissance de l'homme se nomme anthropologie, la connaissance de la sagesse devrait se nommer sophologie, terme inutile puisque la sagesse étant à elle-même sa propre connaissance, le mot sagesse suffirait amplement.
La culture générale par Sirius Audio et l'éléphant.
Milieu autorisé et professionnel de la profession. D'ailleurs, les praticiens de la sagesse, ceux qui affirment pouvoir la posséder suffisamment pour pouvoir l'enseigner, et la vendre aussi, s'appellent au temps de Socrate, sophistes. Ceinture noire de rhétorique, ils sont ceux qui excellent dans l'art de prononcer des discours. Beaux parleurs, ils subjuguent les foules par leur art de convaincre ou persuader, soutenant une thèse et parfois son exact contraire. Une telle pratique de la sagesse réclame qu'on la possède exactement comme le trapéziste possède son instrument. Mais, à regarder les sophistes exercer, on constate rapidement que quelque chose cloche dans leurs propos. Non seulement ils ne sont pas en accord entre eux, s'opposant parfois dans de redoutables débats publics, mais surtout, lorsque Socrate les questionne, on constate rapidement que leur savoir s'appuie surtout sur la conviction d'avoir raison, bien plus que sur une connaissance véritable des concepts généraux. Dès lors, les reconnaître comme sages, ce serait admettre qu'il peut exister plusieurs sagesses, et donc plusieurs vérités. Mais aussi que la sagesse ne se fonde que sur l'autorité de celui qui la prononce. Autant renoncer tout de suite à la vérité ainsi qu'à la sagesse. C'est donc pour les sauver que Socrate s'élève contre les sophistes, ridiculisant leur soi-disant expertise, et ce jusqu'à froisser suffisamment son monde pour qu'on le condamne à mort.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
La vérité est, mais ailleurs. Mais ce faisant, il transforme radicalement ce qu'on appelle sagesse, celle-ci n'étant plus considérée comme la possession d'un savoir absolu, mais comme la conscience de ne pas posséder ce savoir. On comprend dès lors mieux cette phrase célèbre que Platon fait prononcer à son maître dans l'Apologie de Socrate. Si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. On pourrait croire dès lors que c'est parmi les sceptiques qu'il faut placer le père de la philosophie. Mais ici aussi, il faut résister à cette simplification. les sceptiques, dont la théorie générale fut établie tout d'abord par Pyrrhon d'Élis à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, pensaient que ne pouvant jamais atteindre la certitude absolue dans quelque jugement que ce soit, il était nécessaire de suspendre son jugement, se taire, renonçant à chercher la vérité. Socrate montre au contraire que ne pas posséder la vérité, c'est justement la meilleure raison de la chercher. Travaillant dans les dialogues qu'il entretient, ce jeu de thèses remises en question qu'on nomme dialectique et dont sont issus quelques plans de dissertation, le fameux thèse, antithèse, synthèse. Sans l'atteindre pleinement et sans pouvoir la dicter à des disciples, Socrate délimite le territoire dans lequel on peut chercher la vérité et il indique quelle démarche emprunter pour cheminer dans les concepts, véritable terreau des jugements vrais. Le questionnement incessant, les distinctions entre concepts proches, l'ironie, ce sont autant de gestes tactiques que Socrate offre à celui qui voudrait, à son tour, explorer ce fameux monde intelligible. Monde qui, selon la théorie de la réminiscence, est le présupposé nécessaire de la pensée socratique, et ne nous est pas étranger, puisque notre âme, qui est faite de la même substance immatérielle que les idées, y a séjourné avant notre naissance et y retournera quand la mort nous affranchira du monde sensible. Ce qui suit n'est pas juste une image, mais une image juste. On peut maintenant revenir vers les images. Au Louvre se trouve ce tableau de Rembrandt, peint en 1632, représentant le philosophe en méditation. Si ses livres sont à ses côtés, il ne les consulte pas. Éclairé par une fenêtre dont on comprend qu'elle lui procure une lumière en fait tout intérieure, il semble au repos, comme le sont ceux qui ont atteint leur but. Pourtant, et la chose peut s'observer dans toutes les toiles de Rembrandt qui prirent le philosophe comme sujet central, si la lumière de la connaissance éclaire le penseur, image conforme à celle qu'utilise Socrate dans l'allégorie de la caverne, la vis de l'escalier semble aspirer le philosophe et celui qui contemple le tableau vers l'obscurité. C'est là une forme qui épouse intimement les contours du mouvement socratique. Scruter le cœur de la spirale, c'est s'apprêter à lâcher la proie de la connaissance prétendument acquise pour l'ombre de ce qui n'est pas encore connu.
Êtes-vous vraiment sérieux? Ok, bienvenue sur Sirius Audio.
Partie 2, approfondissement. Qui croire? Par Jean-Christophe Blondel. Quotidiennement, nous sommes confrontés à la complexité d'un monde qui nous échappe en grande partie. Pourtant, nous sentons bien que nous devrions nous sentir concernés, et ce d'autant plus qu'en tant que citoyens, nous sommes censés maîtriser ce monde, étant partie prenante des décisions qui y sont prises. Autant dire que, sans aide, nous sommes rapidement perdus, et tout nous incite à chercher autour de nous une voie plus assurée que la nôtre, qui tiendrait un discours que l'on pourrait se contenter de reprendre. Certes, une telle stratégie souffre de manière criante d'un gros manque d'autonomie. Mais ne pas l'adopter, ce serait aussi se montrer présomptueux, se croire capable de saisir tous les enjeux du monde dans tous les domaines, ce qui est de plus en plus impossible. Se pose alors la question de savoir s'il est légitime que certains fassent autorité et que d'autres viennent simplement adhérer, parfois en se contentant de leur adresser d'un clic le pouce levé, à ces jugements prêts à penser. Et si une telle autorité est légitime ? Il reste à déterminer laquelle est la bonne, puisque tout maître penseur est évidemment convaincu d'être le seul et unique à proposer une juste conception des choses. Pour nous qui sommes assaillis par les experts et les polémistes, ce qui importe alors, c'est de distinguer les domaines dans lesquels on peut déléguer la responsabilité de la pensée à d'autres et ceux pour lesquels ce n'est ni utile ni légitime. Dans sa Logique, publiée en 1800, c'est dans les termes suivants qu'Emmanuel Kant propose de délimiter les justes bornes de la reconnaissance de l'autorité d'autrui, afin de ne pas laisser indûment aliéner son propre jugement.
Le savoir, par l'éléphant, s'écoute sur Sirius Audio.
Lorsque dans les matières qui se fondent sur l'expérience et le témoignage, nous bâtissons notre connaissance sur l'autorité d'autrui, nous ne nous rendons ainsi coupables d'aucun préjugé, car dans ce genre de choses, puisque nous ne pouvons faire nous-mêmes l'expérience de tout, ni le comprendre par notre propre intelligence, il faut bien que l'autorité de la personne soit le fondement de nos jugements. Mais lorsque nous faisons de l'autorité d'autrui le fondement de notre assentiment à l'égard de connaissances rationnelles, alors nous admettons ces connaissances comme simples préjugés. cas c'est de façon anonyme, que valent les vérités rationnelles. Il ne s'agit pas alors de demander qui a dit cela, mais bien qu'a-t-il dit. Peu importe si une connaissance a une noble origine, le penchant à suivre l'autorité des grands hommes n'en est pas moins très répandu, tant à cause de la faiblesse des lumières personnelles que par désir d'imiter ce qui nous est présenté comme grand. À quoi s'ajoute que l'autorité personnelle sert indirectement à flatter notre vanité. On propose donc ici de distinguer deux cas de figure. Ou bien la connaissance relève de l'expérience, comme le récit d'un événement d'actualité ou d'un fait historique, ou bien elle est le résultat d'un raisonnement, comme une démonstration mathématique ou un discours relevant de l'économie. Aucun d'entre nous ne peut faire par lui-même toutes les expériences sur lesquelles sont fondées nos connaissances. Nous ne sommes pas allés sur la Lune. Pour nous en faire une idée, nous devons donc nous fier à ceux qui affirment s'y être rendus, et cette confiance est bien placée. Il en va de même pour tous les apprentissages et jugements portant sur des faits que nous ne pouvons pas observer directement et pour lesquels des témoins sont requis.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
En revanche, pour tout ce qui relève du raisonnement, chacun est apte à l'effectuer par soi-même. Nulle limite de temps ou d'espace ne s'interpose entre soi et une démonstration logique. Il n'est pas légitime, dès lors, de confier le soin à quelqu'un d'autre de mener les analyses et réflexions qu'on peut mettre en œuvre et de se contenter de reprendre à son compte une conclusion dont on n'a pas vérifié qu'elle avait été correctement établie. Pourtant, spontanément, on a tendance à faire exactement le contraire. On laisse le soin à d'autres de réfléchir et de donner leur avis sur des questions qu'on pourrait tout à fait traiter si on se donnait la peine de les penser. En revanche, on est pris d'une soif d'images impossible à rassasier, désireux qu'on ait d'être témoin, le plus souvent via un écran et donc à distance, même si le direct donne l'illusion de les vivre sans intermédiaire, d'événements qu'on ne voudrait pas rater. Si on suit la démarche de Kant, on peut établir un premier enseignement. Les fact-checkers, spécialisés dans la vérification des faits et des chiffres à la suite de déclarations, et journalistes de terrain, sont plus pertinents que les polémistes, éditorialistes, analystes et commentateurs. Les premiers proposent des informations qui, pour diverses raisons, nous sont inaccessibles. S'en remettre à eux ne constitue donc pas une aliénation. Au pire, on peut dire que c'est un mal nécessaire. En revanche, les autres effectuent un exercice qu'on peut mener par soi-même. Ils proposent un prêt-à-penser réduit à des conclusions dont on suppose qu'elles sont issues d'un raisonnement méticuleux qu'on ne prendra pourtant pas la peine de mener par soi-même. Évidemment, on pourrait objecter qu'un raisonnement économique réclame des compétences que tout le monde n'a pas. Mais si les données ne sont pas accessibles à tous, en revanche, la manière de les interpréter, elle, met en jeu des facultés que tout le monde peut maîtriser. Il suffit de se donner la peine de les exercer. Ne pas le faire constitue dès lors bien une aliénation, même si elle est volontaire.
Bravo, vous êtes sur Sirius Audio.
Mais un deuxième enseignement peut être tiré de cet extrait de la logique de Kant. Si un raisonnement est juste, alors il n'est pas utile de savoir qui l'a formulé pour en reconnaître la valeur. La signature est même un élément parasite dans l'appréciation des jugements, puisqu'elle incite à prendre pour argent comptant des cheminements intellectuels qu'on pourrait tout à fait reconstituer par soi-même. On doit reconnaître que, généralement, on ne s'en donne pas la peine, préférant s'appuyer sur un argument d'autorité. En fait, les vérités issues du raisonnement sont anonymes, au sens où elles sont partagées par tous sans que personne puisse se prétendre en être le propriétaire ou l'auteur. La définition d'une droite, les propriétés du triangle, mais aussi un raisonnement en économie, sont universelles. Même des extraterrestres les partageraient. Il n'est alors pas possible de déposer un jugement rationnel ou une démonstration, parce que la raison est ce que chacun reçoit à part entière et ne peut pas céder à autrui sous peine de voir sa pensée aliénée. Dès lors, autant il importe de savoir qui nous fournit les informations factuelles qui alimentent nos réflexions, autant il serait judicieux d'être confronté à des raisonnements publiés de façon anonyme, puisqu'on est parfaitement capable d'en établir la valeur. Si on veut revenir à Socrate, c'est précisément cette proposition qu'il lance à qui veut penser de façon juste. Oser penser comme si on n'était pas soi-même. Penser comme si on n'était personne en particulier. Si la raison est universelle et si le monde intelligible est un seul et même territoire, alors la recherche de la vérité exige de s'affranchir non seulement du monde sensible, celui-ci on peut laisser quelqu'un d'autre nous informer à son sujet car il n'y a là rien d'essentiel et on ne peut pas être partout, mais aussi de la tendance qu'on développe tous, qui consiste à vouloir personnaliser les raisonnements, soit en adhérant à une thèse parce que c'est un tel qui l'a soutenue, soit en espérant une certaine renommée dans le fait d'avoir soi-même pondu un propos qu'on espérera repris par d'autres. La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.